Cette merveilleuse petite créature sera bientôt une révolution dans l'industrie de l'élevage. Nos super cochons ne seront pas seulement magnifiques et bien gras, ils laisseront aussi une empreinte environnementale la plus faible possible, consommeront peu de nourriture et produiront moins d'excréments. Et le plus important, leur chair devra avoir bon goût.
La bande-annonce que vous entendez actuellement est celle d'Okja. Réalisée par Bong Joon-ho et disponible depuis 2017 sur Netflix, le film questionne notre rapport à la viande par le prisme de super cochons créés en laboratoire et parfaits pour l'exploitation animale. Aujourd'hui, entre conscience écologique et souci du bien-être animal, la question n'a jamais été autant d'actualité. J'en veux pour preuve les vidéos qui ont tourné il y a quelques semaines où nous avons pour une énième fois été témoins de violences dans les abattoirs. Pour rappel, on pouvait y voir des porcelets se faire fracasser le crâne contre le sol ou se faire castrer sans anesthésie. Bref, des faits dont nous sommes tous conscients, nous sommes tous témoins et qui nous demandent d'agir en conséquence. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous intéresser aux facteurs sociétaux qui impactent nos choix en matière d'alimentation en se penchant plus précisément sur l'évolution de notre consommation de viande et sa remise en cause aujourd'hui. Pour cela, aujourd'hui je ne serai pas seul. Vous connaissez déjà Rebecca, qui est avec moi autour de la table.
Bonjour.
Bonjour, ça va Rebecca?
Ça va, tranquille.
Nickel. Aujourd'hui, nous recevons une intervenante, une invitée. Valentine, comment ça va?
Ça va bien, et vous?
Ça va, ça va.
Tranquille.
Valentine, tu nous as contacté il y a quelques semaines, quelques mois, pour parler justement de gastronomie. Mm-hmm. T'es passionnée par le sujet et t'aimerais être journaliste gastro plus tard.
C'est ça.
Et donc, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour le premier épisode d'une série de podcasts autour du thème de la gastronomie et de notre rapport à la nourriture.
Oui, exactement.
En gros, c'est ça.
Oui, très bien résumé, ouais.
Cette série, L'Expicurien, tentera de développer votre palais et votre culture en matière de bien manger et de bien boire. Cet épisode sera coupé en deux parties. Dans une première partie, on parlera avec Valentine de notre rapport à la viande et de comment il a évolué au fil de l'histoire.
Ouais.
Et dans une deuxième partie, tu as eu l'occasion d'interviewer Florent Pietraval. Tu peux nous le présenter rapidement?
Oui, bien sûr. Alors, Florent Pietraval, c'est un chef étoilé qui est chef du restaurant La Mirande à Avignon, au pied du Palais des Papes. Ouais.
Et du coup, pourquoi tu as décidé d'interviewer Pietraval en particulier?
Bah, parce que c'est un chef qui déjà très talentueux et dont on entend beaucoup parler aujourd'hui sur la scène du monde gastronomique, et particulièrement aussi pour son approche d'une gastronomie durable et responsable. Donc il a notamment une étoile verte Michelin, dont on parlera dans la suite de ce podcast, et trois labels écotables. Voilà.
Ok, intéressant.
Donc, nous sommes l'équipe Calisson et vous écoutez l'Expicurien.
Alors, la gastronomie, on peut dire que c'est un peu l'allégorie de l'excellence à la française. Mais pour l'anecdote, parler de ce qu'on mange pendant le repas, ça n'a pas toujours fait partie, entre guillemets, des bonnes mœurs. Et c'était même proscrit dans les premiers traités des bonnes manières de table. En fait, c'est une règle qui avait tenté d'être instituée par les couvents, donc plutôt un impératif religieux, mais qui en fait n'a jamais vraiment réussi à s'instaurer dans la société. Et quand, après la Révolution française, tout sujet qui risquait d'être clivant ou de faire polémique, comme la politique ou la religion, comme toujours, c'est devenu fortement évité dans les conversations de table. Et donc, à ce moment-là, on s'est mis à parler plutôt de nourriture. Et maintenant, ça fait complètement partie du jeu social. Donc, c'est-à-dire que quand on reçoit quelqu'un, on a envie de parler de ce qu'on a cuisiné, de raconter une anecdote sur la recette qu'on a préparée. Et d'ailleurs, c'est ce lien avec l'aliment qui a peut-être pu nous manquer avec l'essor de l'industrie agroalimentaire et qui justifie qu'aujourd'hui, on ressent un peu ce besoin de retour aux sources, de se rapprocher de l'aliment. Donc, avec le locavorisme, on a envie d'aller au contact du producteur directement, de savoir d'où vient ce qu'on mange en fait, en réalité.
Mais du coup, au fond, est-ce que nos pratiques alimentaires ne relèvent pas de choses plus profondes, comme des choix politiques, etc., et pas juste nos papilles gustatives en fait?
Bien sûr, manger, en fait, c'est intrinsèquement politique. D'ailleurs, y a la citation qui est quand même assez célèbre de Jean Altem Bria Savarin, « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es ». Alors ça, il l'écrit dans Physiologie pardon, du goût en 1848. Donc c'est un livre qui est vraiment considéré comme un des textes fondateurs de la gastronomie. Bon, pour la petite anecdote, Bria Savarin, c'était un homme politique, un magistrat et un gastronome français qui a donné son nom au fromage, le Bria Savarin, qu'on surnomme le foie gras des fromages. Voilà.
Je connais pas.
Moi non plus.
C'est vrai ?
Non.
C'est trop bon, les gars. C'est,
c'est un fromage doux ?
Doux, je sais plus de quelle région. Je crois que c'est plutôt dans le centre de la France. Genre.
Je suis pas un mec du
centre.
Moi,
mais c'est très très grave. Genre,
ah bon ?
Ouais, moi je suis plus
un. On avait pas deviné.
Moi les fromages du nord, je préfère.
Donc, alors, revenons-en à notre sujet initial. Donc, si ce qu'on mange relève d'un choix, il est forcément dicté par des principes et des valeurs auxquelles on adhère. Donc, manger est un choix politique et qui évolue en fonction du contexte sociétal, environnemental, économique de notre époque, etc. Et aujourd'hui, beaucoup de facteurs permettent d'expliquer les sortes de modes d'alimentation alternatifs. Flexitarisme, végétarisme, véganisme, et notamment chez les plus jeunes. Alors, d'un point de vue éthique, le fait de filmer l'intérieur des abattoirs, comme on a parlé à Nice au début de ce podcast, comme le font des associations militantes comme L214 depuis plusieurs années maintenant, ben, ça a participé à choquer profondément l'opinion publique et à sensibiliser par rapport au bien-être animal. Il y a aussi l'urgence climatique, bien sûr, qui nous contraint donc à une prise de conscience à travers notamment les rapports du GIEC qui n'arrêtent pas d'alerter sur l'impact environnemental de l'élevage intensif qui est aujourd'hui responsable de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Et le facteur sanitaire aussi joue un rôle important, notamment suite aux nombreuses études de l'OMS qui ont confirmé le risque cancérogène d'une alimentation trop riche en viande rouge ou en viande transformée. Il y a aussi eu beaucoup de scandales, notamment la vache folle ou la grippe aviaire, qui ont participé voilà, à profondément changer notre perception de la viande.
Ok, mais est-ce que tu sais, si, dans les recherches que tu as faites, si ce phénomène du coup, de régime sans viande, c'est... ça reste marginal ou ça touche quand même une grosse partie de la population en France ?
Non, alors un régime strictement sans viande, donc véganisme ou végétarisme, en réalité, ça concerne vraiment une minorité de la population. Il y a une étude du ministère de l'Agriculture qui a établi qu'en 2020, il représentait à peine plus de 2% de la population. Mais par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que les idées qui poussent à cette déconsommation, elles ont entraîné par contre une forte hausse d'un régime non pas qui supprime la viande, mais qui en limite la consommation, donc le flexitarisme. Ouais. Et qu'on entend parler quand même de plus en plus, même dans les publicités, tout ça. Donc ça, c'est une sorte de mouvement qui serait un compromis un peu... les flexitariens, ils voient un peu cette limitation comme un juste du coup au milieu entre prise de conscience et plaisir de continuer de manger de la viande occasionnellement pour pas non plus être en rupture totale avec comment on a toujours mangé quoi. Et voilà, et selon cette même étude du coup 24% des Français se déclaraient flexitariens en 2020.
OK, ça, ouais, c'est pas mal
quand même. Un quart de la France.
Ouais.
Et juste comme ça, est-ce qu'il y a genre est-ce que tu sais si il y a un profil type des gens qui arrêtent de manger de la viande ou qui sont flexitariens, comme tu le disais ?
Oui, bah du coup, alors oui. Les statistiques, elles montrent que les femmes sont beaucoup plus concernées par... sujettes, merci, à tous ces mouvements, à ces modes d'alimentation alternatifs. Parce que aussi on associe toujours la viande à la virilité, on va dire masculine. Enfin, ça s'explique pour d'autres raisons. Et les célibataires aussi sans enfants, ça c'est intéressant à noter, parce que je pense que quand on a des enfants, on a toujours cette idée il faut qu'ils mangent de la viande pour avoir une bonne croissance, tout ça. Donc les statistiques montrent aussi que les parents, on va dire, sont moins. Enfin, c'est plus les jeunes. Ouais. Femme, du coup, célibataire, sans enfant.
Okay.
Et voilà.
C'est nous, quoi.
Bah ouais.
Finalement. Mais aussi, après, la viande, comme le poulet qu'on achète à Carrefour ou les steaks surgelés, c'est vrai que c'est pas très cher. Mais après, c'est vrai que la bonne viande de qualité, c'est toujours moins cher que le poisson de qualité ou que les substituts au soja. Mais est-ce que ça, tu sais, ça a toujours été le cas? Et à peu près à quand remonte l'arrivée quotidienne de viande sur la table chez les Français?
Bah, en fait, la viande, historiquement, c'est plutôt quelque chose réservé à une élite et à la bourgeoisie. C'est, en fait, pour la paysannerie française au Moyen Âge, c'était vraiment très rare de manger de la viande, c'était vraiment occasionnel. On mangeait plutôt, on se tournait plutôt vers des céréales ou des légumineuses comme, je sais pas, les lentilles, et d'ailleurs, qu'on surnommait d'ailleurs la viande du pauvre. Et bah, tout simplement aussi, ça s'explique parce que la chasse, bah, à cette époque-là, jusqu'à la Restauration, c'était un privilège seigneurial. Et ce n'est qu'à la Révolution française qu'il a été aboli et qu'on a démocratisé le droit de chasse, bon, toujours à condition d'être propriétaire terrien ou d'avoir le consentement du propriétaire en question, ce qui n'était encore pas donné à tout le monde, mais malgré tout, voilà. Mais donc, tout ça pour dire que, historiquement, la viande, elle est rattachée à cette idée de puissance sociale. Et après, progressivement, elle s'est démocratisée, notamment pendant les 30 Glorieuses. On n'a jamais autant consommé de viande qu'entre 1950 et 80. Notre consommation, elle a explosé, notamment bah, avec l'arrivée dans les supermarchés de viande bah, à moindre coût et bien sûr de moindre qualité aussi. Par ailleurs, par rapport au profil type, on va dire, dont on parlait, qu'on évoquait juste avant, il y a aussi... Donc, effectivement, on a un rapport genré à la viande, on va dire, dans la mesure où les statistiques montrent que donc un homme consomme plus de viande, a une alimentation plus carnée qu'une femme, et ça s'explique aussi par le fait que donc il aura tendance à se tourner plutôt vers des protéines animales que végétales comme la femme, et donc et la viande rouge, c'est un aliment qui est particulièrement chargé symboliquement d'un statut viriliste. Avec cette idée qui remonte à l'Antiquité, qu'en fait on absorbe quelque part la force et la vitalité de l'animal. Mais c'est vraiment une conception très ancienne.
Du coup, on parlait tout à l'heure d'Ogja, d'Evidouel 214, les gens sont de plus en plus conscients de ça. Mais du coup, est-ce qu'on assiste vraiment à un revirement de notre perception de la viande en 2023? Et est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le bien manger, ça signifierait ben, en manger moins ou se tourner vers une alimentation plus végétale du coup?
Alors, ben, oui, ben, effectivement, le bon qu'on associe à l'expression bien manger, ben, ça dépend vraiment donc de l'époque et effectivement de la perception qu'à un moment donné, une société a ben, de tel ou tel produit. Et ben, pour te répondre, oui, aujourd'hui, il y a quand même des initiatives qui encouragent, qui sont vraiment mises en place dans ce sens-là, qui viennent notamment de l'État ou même des guides gastronomiques les plus influents, comme bah, par exemple le guide Michelin, dont on parlera dans l'interview qui suivra. Bah, au niveau de l'État, on a par exemple la loi Egalim, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 et qui oriente la politique alimentaire de la restauration collective publique dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle impose aux cantines de proposer au moins un repas végétarien par semaine et de servir au moins 50% de produits labellisés durables ou de qualité, dont un minimum de 20% issus de l'agriculture bio. Donc pareil, en mai dernier, la Cour des comptes avait publié un rapport qui préconisait, je cite, une réduction importante du cheptel bovin pour tenir les engagements de la France en matière de réduction d'émissions de méthane. Et donc pour cette institution, ça serait tenable comme réduction sans entacher la souveraineté de la France en matière de viande rouge, seulement si le consommateur s'en tient aux recommandations des autorités de santé de ne pas en consommer plus de 500 grammes par semaine. Par contre, malheureusement, c'est un seuil qui actuellement est dépassé par 28% des adultes. Donc on en mange trop, voilà.
Ok. Et du coup, est-ce que, je demande autour de la table, est-ce que vous avez changé votre rapport à la viande ou est-ce que dans les faits, c'est quelque chose qui s'observe chez vous ou...
Bah, personnellement, j'essaye de faire plus attention, de consommer mieux. Mais le problème, c'est que, comme je le disais avant, je trouve que la viande, c'est trop cher et que la viande de Carrefour, donc qui est de moins bonne qualité, c'est mieux. Donc, enfin, j'essaie de réduire ma consommation. Okay. En prenant de la meilleure.
Ok, d'accord.
Mais en vrai, si j'avais les moyens, j'en prendrais plus tout le temps, je pense. Donc, c'est okay. pas vraiment...
Okay. Donc, c'est plus par choix économique.
Bah, je me dis, en fait, le poulet, s'il a été élevé en plein air, on s'en fout. Enfin, il faut qu'on le mange.
En fait, si t'avais les moyens, t'achèterais plus de viande, mais de qualité,
ouais.
On va dire.
Ouais, non, mais de ouf.
Ok. Ben moi, oui, j'avais arrêté de manger de la viande il y a 3 ans maintenant. Et parce que, bah justement, je regardais des vidéos d'Aide 214. Et après, du coup, j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Et je pense que quand t'es dégoûté, après...
Enfin, voilà. Depuis, t'en manges plus ?
Ouais, non.
Ok, d'accord.
Voilà.
Okay. Tu manges du porc,
ah, bah, vas-y.
Moi, j'adore le porc. Laura, qui nous écoute, a aussi envie d'intervenir. Vas-y, Laura.
Ouais, non, moi, je voulais juste dire que, pareil, j'avais vu un reportage sur les nuggets chez McDo, précisément, et que ça m'avait particulièrement dégoûtée, et que ça fait quelques années que je ne mange plus du tout de nuggets. Donc, enfin, ce genre de vidéo qui, on va dire, sensibilise à la cause animale, marche plutôt bien. En tout cas, moi, ça a tout de suite marché parce que j'ai vraiment arrêté d'en manger et j'aimais vraiment les nuggets. Et j'aime toujours ça, mais depuis,
mais ça,
j'en ai
dégoûté, quoi.
Ouais, j'en ai jamais retouché. Donc, okay. Donc c'est, il ne faut pas les regarder dans la mesure où... Enfin, si vous savez que ça va marcher et que vous voulez quand même continuer à manger de la viande, il ne faut pas regarder ce genre de vidéos. Mais par contre, je trouve que c'est plutôt convaincant et persuasif parce que c'est horrible à voir. Quoi. Ouais. Donc après, tu te dis vraiment, bon, bah, je ne vais peut-être pas continuer à manger.
Il
ne
peut pas y avoir de retour en arrière.
Exactement.
Okay.
Voilà.
Ah ouais.
Et du coup, vous avez plus arrêté par conscience animale que par conscience écologique. Du coup, c'est pas pour
moi, à la base, c'était bien-être animal.
Okay. Moi aussi, moi, c'était après, clairement bien-être animal. Après, je pense aussi que c'est un petit peu le problème... Là, les images qui tournent dans des abattoirs, etc., c'est vraiment l'animal, tu vois. Il y a pas, enfin, il y en a de plus en plus sur la conscience écologique, mais depuis quelques années, ça tourne quand même vachement autour de la cause.
En fait, c'est moins visible et en réalité, c'est plus des études, des chiffres, en fait.
C'est ça, en fait. Clairement. T'es moins frappé par
exactement. C'est vrai que tout ce qui est conscience écologique, tout ça, on l'acquiert par la lecture d'études ou de chiffres, et donc c'est moins saisissant, moins saisissant exactement que visionner un animal qui se fait
c'est franchement torturer, c'est assez horrible, c'est vraiment horrible
dans l'esprit, c'est pas la même chose.
Et c'est horrible, enfin je veux dire, sur la cause écologique, c'est horrible aussi, mais c'est peut-être peut-être pas le caractère spectaculaire,
c'est
et là t'es vraiment confronté genre à la mort d'un être vivant, et c'est assez gore quand même. Conclure
Para concluir.
Les vidéos de sensibilisation, je trouve, sur la cause animale, marchent plutôt bien. Enfin, elles ont quand même, en général, des conséquences. Après, ça dépend chez qui. Sans viser personne, évidemment.
Je crois que c'est Paul McCartney qui disait « Si les abattoirs avaient des murs transparents, tout le monde serait végétarien. »
Donc, pour finir, on va vous laisser avec l'interview du chef Pietraval par Valentine, du coup. Vous y parlez notamment de son parcours, de ses labels verts, etc. On vous laisse avec l'interview et on vous remercie de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup.
Alors bonjour Florent Pietraval. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour notre podcast.
Bonjour, ravi d'être là avec toi.
Vous êtes chef du restaurant La Mirande depuis 2017. Donc, au pied du Palais des Papes à Avignon. Alors, outre votre talent et votre savoir-faire, qui d'ailleurs bâti en partie aux côtés du chef triplement étoilé Pierre Gagnère, chez qui vous avez fait vos armes pendant 4 ans, il me semble.
Exactement.
C'est ça. Vous distinguez également par une approche éco-responsable dans votre façon de cuisiner. Le guide Michelin vous a d'ailleurs couronné d'une étoile verte, qui veut s'ajouter à l'étoile que vous aviez déjà eue en 2019, obtenue en 2019. Alors, pour rappel, l'étoile verte, c'est une distinction qui a été créée par le guide en 2020. Je ne dis pas pour vous, hein. Donc en 2020, pour, on va dire, favoriser la prise de conscience autour des enjeux du développement durable dans le milieu de la cuisine. C'est une récompense qui est pas donné à tout le monde, puisque sur 15 000 restaurants répertoriés par le guide, il n'y en a que 350 qui l'ont obtenu à ce jour. Alors, juste cette distinction, elle est pas basée sur des critères précis. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les initiatives, peut-être, que vous avez mises en place à la Mirande?
Non, on n'a jamais cherché à avoir l'étoile verte.
Elle est tombée.
L'écologie, c'est quelque chose qui nous touche tous maintenant, et c'est quelque chose où on en parle plus librement et on en parle avec beaucoup plus d'importance. que ce qui était il y a 5, 10, 15 ans. Maintenant, moi, je fais attention à ce signe avec les gens avec qui je travaillais, à la responsabilité environnementale qu'on a dans la cuisine. Avec tout ce qu'on utilise, c'est important de faire attention à la consommation. C'est en vrai, pour moi, c'est une philosophie, quoi. Mm-hmm. Une philosophie de travail. Et après, le reste, ça vient après. Tu peux pas faire ça parce que tu laisses récolter les verres, il faut faire ça. Parce que ça devient quelque chose. C'est pas une, je vois un peu différemment des étoiles rouges, quoi. C'est plus quelque chose de,
plus, ouais, de philosophique.
C'est que nous, c'était un accord avec les propriétaires de voilà, eux, c'était des organismes il y a 30 ans. Ils étaient déjà pionniers du bio. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de.
D'accord. Ouais, vous inscrivez dans
une démarche. Ça nous a toujours habité, quoi. Ouais. Toujours fait partie de nous. Et voilà, quoi. Après, c'est juste, j'ai été le premier chef étoilé à travailler avec Écotable. Écotable, ouais. qui est un label, mm-hmm. qui nous accompagne et qui nous conseille sur comment les choses qui sont possibles d'améliorer. Ça nous fait aussi rencontrer d'autres chefs sur le bistrot, sur le gastro, sur des gens aussi qui ont cette même vision que nous. On se rencontre, on échange, on partage, on discute, on grandit. Chacun de notre côté, on a des problématiques qui sont des fois différentes, mais au moins on trouve des solutions ensemble. Ou pas, des fois c'est pas possible. Parce qu'on reste aussi une entreprise. Mm-hmm. Donc ça coûte de l'argent de faire attention de recycler les produits, de faire les champignons avec notre compost.
Voilà, oui, je voulais vous savoir si vous pouviez nous expliquer un peu ce que
ouais, bien sûr. C'est possible. La cave à champignons, c'est un joli projet. On a fait ça avec comme des champignons, une association urbaine. Mm-hmm. Et donc ils n'avaient pas de lieu pour développer ça. Et moi, je voulais vraiment recycler le marc-café qui était le seul produit pas local qu'on utilise dans le pays.
Voilà.
Mais en même temps, on va pas sans café, c'est important. Donc tu vois, je suis pas extrémiste. Je veux pas dire, je fais plus de café, je fais plus ça. On essaie de le faire au maximum. Et donc on fait du café au restaurant, mais par contre le marc-café, on va l'utiliser comme nutriment pour les champignons. Mmh. Et c'est le nutriment le plus important. Il va donner beaucoup de tonus.
D'accord.
Et après on fait notre mélange, copeaux de bois, le compost avec tous les légumes qu'on fait, le marc-café et le mycélium qui est le sport du champignon. Oui. Okay. On mélange tout ça, on met de l'eau, on met ça pendant 2 semaines. Je le fais simple. Mmh, et au bout de 2 semaines, dans une chambre noire, avec un peu d'humidité, le champignon se développe, et après ça produit donc des plantes.
D'accord. Donc c'est quand même du travail au quotidien.
On produit 40 kilos par semaine, il y a 3 personnes de l'asso qui travaillent, et d'accord. Après c'est revendu dans les biocoops et autres.
D'accord, ok. Et juste, je tiens à préciser que vous êtes le seul chef d'Avignon à détenir le label, enfin 3 écotables. Voilà. Alors, on voulait s'intéresser plus concrètement au métier de chef par rapport à l'élaboration de la carte. Mm-hmm. Comment ça se passe? Est-ce que vous la changez chaque saison? Est-ce que c'est un travail solitaire ou est-ce que, par exemple, je sais pas, vous consultez votre brigade sur vos avis? Est-ce qu'il vous arrive de retravailler des plats qu'il y avait à la carte l'année d'avant, mais d'une façon différente?
Oui.
C'est une question globale.
C'est intéressant.
Oui.
C'est intéressant. Nous, il n'y a pas trop de... Enfin, on veut pas trouver, moi j'ai aucune règle, quoi. C'est assez libre. C'est-à-dire que si un des gars a une super idée et qu'il y a un sens dans notre menu, on va la mettre. Je trouve que impliquer les gens qui travaillent avec toi, la meilleure façon c'est de les faire part au projet et de les construire avec eux. Donc moi je suis pour donner la liberté aux cuisiniers. Et en même temps, voilà, faut garder ce fil conducteur et ça prend un petit peu de temps, de façon de comprendre comment je travaille, comment je réfléchis. Après, c'est une cuisine télé très vite, quoi. C'est change beaucoup plus qu'une fois par saison. Quoi.
Ah, d'accord.
Déjà okay. La saison, une semaine il fait 30 degrés, une semaine il fait 15 degrés, une semaine il y a des champignons, une semaine il pleut, les champignons on ne peut pas les faire.
En fait, vous
une semaine il n'y a pas de poisson parce qu'il y a trop de coup, on va pas sans la viande. Donc, c'est vraiment le climat et la région, les producteurs qui vont participer.
Et vous avez toujours travaillé comme ça ou ça dépend de...
De plus en plus.
De plus en plus. À cause des aléas.
Et en fait, tout ce qui peut te paraître une, comment dire, un blocage, pour nous, c'est notre ADN, quoi. Donc, c'est un avantage, quoi. Ça crée notre singularité.
D'accord. Okay. Mais ça nécessite de savoir s'adapter quand même.
Ça nécessite une compréhension de produit,
c'est
une réflexion, c'est de la fatigue parce que c'est plus de travail.
Bah, c'est plus.
Et en même temps, c'est la vie du cuisinier.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a des restaurants qui changent deux fois par an la carte.
Jamais, et, ouais,
qui reprennent celle des années précédentes.
Ouais, chacun a sa philosophie, quoi. Moi, je trouve que la cuisine vivante, elle a beaucoup plus d'âme. Et pour toucher les gens, il faut avoir quelque chose de minute et de cuisine un petit peu, comment dire.
Je rebondis là-dessus. Dans une interview que vous aviez donnée pour Le Monde en septembre dernier, vous avez dit, pour vous citer, que votre cuisine parlait pour vous et que c'était un moyen de vous exprimer et de faire plaisir aux autres. Donc, est-ce que c'est ça pour vous, quelque part, la valeur essentielle de votre travail, en fait, de communiquer peut-être des émotions de...
C'est arrivé. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai peint mon bar. Je pense que c'est un peu une forme d'expression, de pouvoir raconter quelque chose à travers un plat. Quoi. Je trouve ça le plus beau possible, quoi. Quand t'as quelqu'un qui pleure à table ou de vivre ça, au début, tu crois pas, quoi. Tu dis, mais comment c'est possible, quoi. Parce que ça les ramène à des choses, des fois, qui sont plus profondes ou qui vont toucher les gens. C'est assez fou.
Ils
c'est
fou de le vivre. Garder, peut-être que dans 10 ans, ils se rappelleront qu'ils ont mangé ça.
Exactement. Une dame qui a un cancer de la bouche, il perd le goût pendant 2 ans, il sait plus. Il est complètement déboussolé parce que quand tu manges, t'as plus de goût. Et elle retrouve le goût, et son premier repas, elle vient et elle mange un restaurant pour avoir ce souvenir de quand elle mangeait chez nous. Quoi. Ça, c'est des histoires de.
C'est dingue.
C'est pas des histoires de. L'étoile, le truc, c'est des histoires de vie qui sont fortes et
en tant que chef, vous créez vraiment un lien avec le client.
Et en tant que chef, quand tu vis des choses comme ça, c'est
ouais. D'accord. Alors, quand on regarde la carte de la Mirande, on voit qu'on a le choix entre 3 menus, donc soit en 2, 3 ou 4 séquences.
Oui.
Donc, on peut choisir un de ces menus qui sont détaillés minutieusement sur la carte, mais on a aussi l'option carte blanche. Alors, je vais savoir comment ça se passe, l'élaboration du menu. Alors, c'est une forme de pression en plus, j'imagine, parce qu'il y a quand même le risque que le client ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Est-ce que c'est une sorte de plan B que vous avez?
Non, c'est le même menu. C'est juste qu'on...
C'est le même menu.
En fait, on veut pas... J'aime pas imposer les choses.
Ouais.
Je veux pas que le client se sente obligé de pas avoir, quoi.
Oui.
Il y a certains clients qui aiment bien savoir ce qu'ils vont manger avant, et d'autres qui préfèrent ne pas savoir, comme ça ils vont un peu aller sur des produits qui habituellement ils n'iraient pas forcément, quoi.
Oui.
C'est intéressant. Et là, depuis février, j'ai axé menu végétal et menu animal. Enfin, on a le choix de partir que sur du végétal ou d'aller sur du animal.
D'accord. Ok. Et je crois que depuis que vous travaillez là, vous avez toujours proposé une alternative végétale.
J'ai fait vegan.
Vegan aussi.
J'ai fait un vegan, après j'ai arrêté parce que j'en ai marre. Les vegans sont trop extrémistes pour moi et un côté trop...
Trop restrictif.
Ils ne comprennent pas les autres et tous les extrêmes. Ça ne marche pas dans un restaurant parce que c'est... On est laïque et on est ouvert à tout le monde.
Oui, bien sûr. Vous avez trouvé qu'ils étaient...
Enfin, ils ne comprenaient pas les gens à côté qui mangeaient de la viande. Du coup, moi, je suis pas d'accord quand il y a un côté, il dit, vous êtes un assassin, vous êtes un
assassin. Ah, vous avez fait face à cette situation.
Ouais.
C'est vrai?
Oui, c'est trop extrême.
Donc, la philosophie vous a
pas
emballé que ça au final. Parce que c'est vrai que c'est très rare quand même.
C'est hyper intéressant. Franchement, il y a plein de choses dans le vegan, il y a plein de choses hyper, qui t'amènent à travailler, je sais pas, moi, le lait d'amande, plein de produits que ils m'ont permis de grandir dans ma cuisine, franchement.
Alors qu'ils sont peut-être plus durs à trouver aussi de manière locale.
Bah après on les fait nous-mêmes. Mais c'était intéressant parce que du coup il y a plein de choses à prendre. Mais c'est juste, voilà quoi, pas d'extrémisme, donc du coup juste un menu végétal. C'est beaucoup plus...
D'accord, ok, merci beaucoup, j'ai pas plus de questions si vous voulez rajouter quelque chose.
Merci beaucoup, c'était un bon moment.
Merci beaucoup, chef Pietre Aval, pour cette interview.